Je voudrais, à la fin, si je puis dire, pas complètement, mais à la fin de cette période des théophanies, des épiphanies, des manifestations du Seigneur, de la Sainte Trinité, à Noël, au 1er janvier, circoncision du Seigneur, et aujourd'hui, pour le baptême du Jourdain, je voudrais faire le lien entre toutes ces solennités. Un lien théologique, évidemment, vous vous en doutez bien. Et ce que je vais vous dire n'est évidemment pas une invention personnelle. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, proclamé tout à l'heure, dans la grande anaphore de consécration des eaux du Jourdain. Et pour les Lyonnais de cœur, dans cette théologie exprimée dans cette magnifique anaphore, nous reconnaissons de nombreux traits que nous a expliqués Saint Irénée de Lyon, un héléno-français quand même, héléno-gaulois, la France n'existant pas encore à ce moment-là, mais il était bien de chez nous, par adoption. Et il a montré dans son livre, dans ses homélies, contre les hérésies, c'est le titre, il a montré comment la kénose, comment la limitation volontaire de la gloire divine qui lui revenait en tant que personne divine et nature divine. Le Christ a caché cela avec la nature humaine, la nôtre, l'unique nature humaine, et que toute sa vie a été une influence d'une nature sur une autre, sur l'autre nature, tantôt l'une, tantôt l'autre, qui prenait le dessus, si je puis dire, suivant sa volonté, suivant ce qu'il pouvait contrôler, ce qu'il savait contrôler, je veux dire. Sa gloire divine transparaissant quand il parlait d'autorité, quand il faisait des miracles, quand il s'unissait à son Père, sa nature humaine, notre nature humaine, prenant le dessus lorsqu'il souffrait, lorsqu'il pleurait, lorsqu'il avait froid, lorsqu'il avait faim, lorsqu'il jeûnait, lorsqu'il était tenté. Et toujours, ces aspects-là, disons-les humains, si vous voulez, était illuminé, était transfiguré par sa volonté, par sa gloire divine, parce qu'il était Dieu. Ça m'est difficile de vous expliquer ça d'une manière claire, parce que c'est pas facile. La police, je n'aurais dit autant, hein. C'est difficile parce que c'est pas facile. Retenez l'expression. Je sais qu'elle me sera servie. Ceci est fondamental. Mais ce n'est pas fondamental seulement pour savoir qui est le Christ et comment il vivait et que représentait sa personne, que représentaient ses deux natures, divine et humaine. Ça resterait extérieur à nous-mêmes. Mais c'est fondamental pour notre vie à nous. Et je vais essayer de vous montrer, avec des images pas très belles, d'essayer de vous faire comprendre en quoi nous sommes concernés. Quand Dieu nous a créés, Il ne nous a pas créés directement parfaits. Sinon, nous n'aurions pas été créés à son image et à sa ressemblance. Puisqu'il est incréé, si nous sommes à son image, il fallait aussi que nous soyons aussi, d'une certaine manière, incréés. C'est-à-dire que nous participions à notre propre création, que nous nous auto-créions. Comme ça qu'on dit ? Auto-créons. Et c'est pour cela qu'il nous a créés avec notre nature humaine en voie de perfection, devant acquérir la ressemblance par notre participation, à la création qu'il nous offrait. C'est tout le jeu de notre liberté. L'image que je vais prendre, n'est pas belle. Et je ne fais que de développer un peu une image qu'avait pris avant moi, excusez-moi de nous comparer à lui, Saint-Irénée de Lyon, justement. En quelque sorte, quand il nous a créés, Dieu faisait du tricotage. C'est-à-dire qu'il avait un patron, il avait un modèle. Le modèle, c'est le Christ, le Verbe de Dieu. Il avait un patron, il avait une aiguille à tricoter. Et il nous a tissé avec cette aiguille pour faire de nous un vêtement, un tricot, prêt à ressembler au patron qu'il prenait pour modèle, c'est-à-dire le Christ. Mais, mesdames, vous savez mieux que moi que pour tricoter, il faut deux aiguilles. Il en faut plus, mais enfin, il faut au moins deux aiguilles. Et l'autre aiguille, nous l'a laissée en main. Et c'est en utilisant les deux aiguilles, l'action de Dieu et l'action des hommes, qu'on était amené à nous auto-tricoter de manière à parvenir à la ressemblance divine. Ça, c'était bien. C'était notre vocation. C'était facile. Dieu faisait le travail pour nous. Il y avait, quand il faisait une maille à l'endroit, on n'avait qu'à faire une maille à l'envers. Et c'est comme ça qu'on communiait avec lui. C'était ça la synergie, l'énergie commune entre Dieu et l'homme. Simplement, il y en a un qui n'a pas été très gentil dans l'affaire. On l'appelle le diable, le démon, le tentateur. Et il a pris un malin, je prends le mot à dessein, il a pris un malin plaisir à tout détricoter. Le beau pull que le Seigneur avait fait, il lui a pris un bout et il tire dessus de manière à tout défaire et tout enlever. Mon exemple vous paraît peut-être chaud, mais retenez ça, il détricote. Ça, c'est l'expression de Saint-Irénée. Et on se trouve maintenant avec une nature détricotée. C'est la nature humaine malade, telle qu'on la connaît, déchue, comme on l'appelle. Déchue, évidemment, du modèle auquel elle devait ressembler. Et qu'a fait dans ce tricotage, qu'a fait le Christ, qui était à la fois Dieu, une des deux aiguilles, et à la fois homme, l'autre aiguille? Il a, en s'incarnant, ce que nous avons fêté à Noël, en s'incarnant, il a pris notre condition humaine détricotée. Et maille par maille, bon, c'est une image, c'est un symbole, toujours, mais maille par maille, il a essayé de retricoter, il a essayé, Il a retricoté ce que le diable avait défait. C'est pour cela qu'il a, eu faim, par exemple, de manière à ce que notre faim, il a eu faim en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, mais en tant que personne divine, comment un Dieu peut avoir faim? C'est ce que le scandale pour toutes les religions non chrétiennes. En acceptant cette faim et en souffrant, sa gloire divine retricotait la faim de manière à ce qu'elle soit une nourriture. C'est-à-dire que quelque chose qui était négatif devienne positif. Pas simplement pour lui, mais pour toute la nature humaine, c'est-à-dire la nôtre, depuis le premier homme jusqu'au dernier. S'il a pleuré, c'était pour que nos propres larmes, notre propre souffrance, soient retricotées en un acte d'amour pour Dieu d'abord, et pour nos frères et pour le monde ensuite. S'il a été ému à cœur, s'il a été ému jusqu'aux entrailles, c'est de manière à ce que notre compassion soit illuminée par sa compassion à lui, Dieu, de manière à ce qu'elle soit, à ce qu'elle devienne éternelle. S'il est mort, c'était de manière à retricoter notre vie pour que sa vie paraisse, s'infuse, si je puis dire, en nous, de manière à ce qu'elle devienne vie éternelle au-delà de la mort. Etc., etc. On peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Tous les éléments de notre vie, le Christ les a vécus. Pas dans la même histoire. Je crois qu'il n'a pas eu beaucoup à lutter contre Internet, par exemple. Cependant, la lutte contre les pensées, les images, il les a connues, etc., etc. Voilà le but de Noël, voilà ce que nous avons fêté à Noël. Cette osmose, cette compénétration de la vie divine dans notre nature humaine déchue, de manière à la retricoter maille par maille. Et aujourd'hui, nous voyons le Christ, après l'avoir vu accomplir la loi avec la circoncision, c'est-à-dire accepter les lois humaines dans lesquelles il se moule lui-même, mais pour leur redonner une autre signification. S'il a été circoncis dans la chair, c'est pour nous apprendre à circoncire notre cœur, c'est-à-dire nos pensées, c'est-à-dire notre orientation, ce qui est de plus profond en nous. Et aujourd'hui, nous le voyons s'humilier devant une de ces créatures, enfin, devant toute créature. Son premier aspect, Jean le Baptiste, mais aussi en descendant dans les ondes du Jourdain, il descend dans la matière. Il s'immerge dans tous les sens du terme. Il s'immerge dans l'eau, c'est-à-dire dans le matériel, dans la matière la plus, je ne sais pas si on peut dire compacte si vous voulez, mais la plus élémentaire. Et en se fondant dans cette matière, il se fond dans toute matière. Et ça dit qu'il retricote la matière elle-même déchue, pour en faire un sacrement, pour en faire un moyen de vie, mais un moyen de vie éternelle. Pas simplement, l'eau n'est pas simplement une vie pour arroser les plantes et remplir nos cellules d'éléments liquides. Mais c'est pour nous donner la vie éternelle. S'il a été plongé dans les eaux du Jourdain, c'est pour que l'eau du Jourdain, qui normalement donne la mort, parce qu'on se noie dans l'eau. Il y en a eu qui ont eu l'expérience récemment. Mais en même temps, c'est les mêmes, la même eau. Quand elle est sanctifiée par la descente de l'Esprit-Saint et toutes les eaux, comme toutes les terres, comme tous les rochers, comme tout le cosmos, a été par ce simple geste du Christ descendant dans l'onde du Jourdain, a été transfuré, peut redonner une autre dimension au cosmos et une dimension vitale. L'eau dans laquelle le Christ est plongé, maintenant c'est une eau dans laquelle nous plongeons aussi pour acquérir la vie éternelle. Il nous a retricotés. Ceci, vous pouvez le décliner sous toutes les formes. On peut continuer pendant 3 heures, si vous voulez, mais j'ai peur d'avoir des récriminations. Je ne voudrais pas détricoter ce qu'on voudrait tricoter, ce que le Seigneur tricote par ailleurs. Mais toute notre vie, toute la justification de notre foi se trouve dans cette réalité-là de l'immersion du Verbe de Dieu dans notre cosmos et en nous-mêmes. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, le péché, j'ai pas dit les péchés, mais vous comprenez que le péché, c'est tout ce qui est notre participation, dans la mesure où elle est volontaire, au détricotage, une communion avec le détricotage opéré par Satan. Et que finalement, le but de notre vie sur Terre, les quelques années que nous passons, consiste à, avec la force du Saint-Esprit, que nous avons reçu en étant plongés nous aussi dans le baptême, à retricoter en communion avec le Christ notre nature telle qu'elle aurait dû être. C'est reprendre en main l'aiguille à tricoter qui nous a été confiée. Dans la grande anaphore de consécration des eaux, on voyait que le Saint Sophrone nous dit que par le baptême, par son baptême, le Seigneur nous a redonné la liberté. Dans un premier temps, on ne voit pas tellement le rapport. Où est la liberté là-dedans? La liberté, c'est parce que nous avions perdu cette liberté par les mailles du filet tricoté par le démon qui avait obscurci la capacité que nous avons de gérer notre vie en bien. Mais le Seigneur, par l'intérieur, en retricotant notre nature dans la sienne, puisque notre nature nous est commune, nous redonne la liberté si on veut. La liberté, c'est toujours si on veut, par définition. La liberté de retrouver le pouvoir, la domination sur les éléments qui nous sont confiés. Et dans cela, les péchés, je ne parle pas du péché, mais les péchés ne sont que la manifestation individuelle, si je puis dire, de ce manque de bonne volonté, de cette opposition à la volonté de Dieu. Le péché nous est commun, mais les péchés me sont individuels. Le péché, c'est ce détricotage, cette participation avec le démon, avec les démons et avec le diable, à l'obscurcissement de notre nature, alors que mon péché, mes péchés personnels, sont ma manière individuelle de participer à cette opposition à la volonté de Dieu, à l'œuvre de Dieu, appelons-le plutôt comme ça. Par ma gloutonnerie, par mes mensonges, par ma colère, par tout ce qui fait mes péchés que je peux confesser. C'est c'est la manière personnelle que j'ai de vivre ce péché qui nous est global. Toi, ça va être par le meurtre, toi par l'adultère, toi par le meurtre. Moi, c'est par... je ne sais plus ce que je veux dire. Comme je n'ai pas l'intention de me confesser tout de suite. Vous voyez l'enjeu ? C'est autre chose que de la morale. Bien sûr que ça implique la morale, mais c'est autre chose que de la morale. C'est vital. C'est éternel. Vous avez vécu combien? 4 heures, 5 heures d'agrippnie presque. 5 heures d'agrippnie. C'était quoi? Vous avez rendu un culte à Dieu? Qu'est-ce qu'il a à faire dans notre culte? On a manifesté notre joie simplement. Mais quelle joie! Qu'il soit plongé dans les joues du Jourdain et qu'il ait eu l'humilité de se faire baptiser par un homme semblable à nous, Jean le Baptiste. Si c'est que ça, c'est déjà pas mal, j'aime dire, mais si c'est que ça. Non, on se réjouit d'autre chose qui nous réconcilie, qui nous retricote, qui nous remet dans la forme qui est la sienne. On a vécu 5 heures d'agrippe. Qu'est-ce que c'était? C'était une participation momentanée, 5 heures seulement, au mystère de l'éternité. On était plongé dans l'éternité. Si ça durait simplement 5 minutes, pour faire la fête de notre devoir, maintenant, ça y est, tranquille, on peut passer à autre chose. Tandis que là, on s'est fatigué, ça a duré un certain temps. On regardait quelquefois peut-être notre monde pour voir dans combien de temps ça allait finir. On commençait à sentir les effluves de la dinde au marron qui était dans le four, comme le racontait Alphonse Daudet. C'était pas au monastère qu'il a copié ça. Mais cette agrippnie, c'était une participation, une expérience de la vie éternelle. Si un chrétien ne connaît pas la vie éternelle, il ne peut pas se dire chrétien. Et on ne connaît pas la vie éternelle comme ça, par une étincelle. Bon, ça s'apprend d'une manière pratique, pragmatique, notamment par les agrippnies, notamment par la prière, notamment la prière nocturne, ça s'apprend par le jeûne, etc. Tout cela ne sont pas des sacrifices que l'on offre à Dieu, ce sont des points où l'action de l'homme correspond à l'action divine. On jeûne, mais en jeûnant, le Seigneur remplit notre âme de sa présence. Et pour toute chose, c'est pareil. Toute chose, c'est pareil. C'est la vie de Dieu que l'on reçoit. Cette expérience-là, le Christ l'a appliquée. Il est venu, il l'a réalisée. C'est ce qu'il a vécu pendant ses 33 ans sur terre, à peu près. Les apôtres n'ont pas compris du premier coup. Ils ont d'abord raconté ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu. Et petit à petit, l'Esprit Saint faisant son œuvre en eux, est revenu à la mémoire des apôtres ce que le Christ leur expliquait qui le concernait dans les Écritures. C'est-à-dire ce dont on est en train de parler tout de suite. Et petit à petit, ils ont fait l'exégèse, ils ont donné l'explication à travers le choix qu'ils ont fait dans les faits et gestes et paroles du Christ. Le tri qu'ils faisaient était une manière de transmettre aux générations à venir, nous, la signification, le sens de la vie du Christ et de la descente, de l'incarnation, de la descente du Christ dans la chair, de sa mort et de sa résurrection. Le dernier des apôtres, Saint Jean, en écrivant son livre de l'Apocalypse, vision qu'il a eue, nous a montré, nous a transmis cette réalité dont je vous parle, ce mystère qui nous unit aujourd'hui. Il a montré comment ça nous était accessible par la liturgie. La liturgie, c'est cette vision qu'il a eue de l'Apocalypse. Et la vision de l'Apocalypse, c'est simplement qu'il a vu par avance ce à quoi tout ce tricotage amenait. Comment notre vie, notre prière, notre jeûne, notre souffrance, nos maladies librement acceptées, joyeusement acceptées, même si ce n'est pas des parties de plaisir, comment tout cela nous ouvre sur la réalité du monde céleste qui est visible dès aujourd'hui, en partie. C'est à la liturgie qu'on peut voir le résultat de cette œuvre commune entre Dieu et l'homme. Ceux qui ont eu la chance d'aller en Catalogne espagnole voir les églises de Boïe et les belles fresques de l'Apocalypse que vous retrouvez sous une autre forme à beaucoup d'autres endroits et en sculpture aussi dans les églises romanes, on peut constater comment Saint Jean, comment ces fresques montre la fulgurance de la transfiguration de ce monde par la force du Saint-Esprit qui met devant nous le Pantocrator, le Christ Tout-Puissant, et aujourd'hui les anges, les archanges, les trônes, les dominations. C'était encore le texte de la consécration du Jourdain tout à l'heure, comme c'était exprimé aussi dans l'anaphore de la liturgie. Mais tout ça, justement, ça nous est accessible. Saint Jean nous a montré le but, ce que tout ça allait devenir. Mais nous, qui nous acheminons vers ce but-là, nous n'avons pas toujours la même fulgurance de la vision, mais nous avons, dans le fond de notre cœur, la même vision, je dis bien la même vision, en moins visible peut-être, en filigrane, à travers la liturgie. Si vous prenez les choses comme ça, notre foi, notre pratique de l'Église, notre vie dans l'Église prend un tout autre sens. Ce ne sont plus des obligations morales que nous avons à la garde de Dieu. Ce n'est pas un culte qu'on lui rend. Ce n'est pas, comment dire, des dons de nous-mêmes que nous faisons. C'est simplement une participation, une acceptation de l'ouverture de notre cœur à l'autre monde, le monde du royaume des cieux qui est présent ici. J'entendais ces jours-ci quelqu'un s'émerveiller que dans l'Église, il se sentait en communion avec les hommes du monde entier. Pas un bisounours, vous savez, pas alléluia, tout le monde est beau, hein, mais sentir vraiment cette communion entre tous les hommes, dont les membres de l'Église sont comme le ferment, sont comme le levain dans la pâte, mais c'est toute la pâte qui lève. Et j'en profite pour vous dire, et je ne vise aucune personne d'entre vous, que j'étais horrifié par certains côtés, par l'expression des vœux que l'on échange. Foin des vœux, bonne santé, c'est surtout la santé qui compte, parce que s'il n'y a pas la santé, ça mis à part, alors que le manque de santé peut être une grâce, au contraire, et on en a souvent l'expérience. Mais parce que, attendez, j'ai un trou. Dans ce que je voulais vous dire, oui, que dans les vœux qu'ils ont dit, ça finit presque toujours. Bonne année. Et puis, prions ou supportons le monde dans son état de délabrement dans lequel il est. Quelle souffrance, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Toutes choses vraies. On ne peut pas se réjouir, humainement parlant, de tout ce que l'on voit et tout ce qui nous entoure. Mais quel manque de foi. On réagit comment? On réagit comme des hommes détricotés, comme des hommes qui n'avons pas la foi. Si nous avions la foi, nous devrions nous réjouir de cette déchéance du monde. Parce que c'est le signe que l'heure de l'apothéose du Christ, que c'est le signe que du retour imminent du Christ qui doit venir pour illuminer, transfigurer, ressusciter le monde. Certes, il y a des souffrances, certes, il y a de la persécution, certes, il y a de la douleur, certes, il y a des injustices humaines. Notre rôle, c'est d'aider, dans la mesure du possible, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine, de les consoler. Ça, c'est la miséricorde divine qui doit passer aussi à travers nous. C'est notre témoignage. Mais en même temps, j'allais dire, qu'est-ce que ça peut faire? Mon expression n'est pas bonne. C'est pas ça que je voudrais dire aujourd'hui. Si le monde se dégrade à ce point-là, si tout se déchaîne, on a été prévenus. Le Seigneur nous a dit que tout allait se déchaîner avant qu'il revienne sur terre pour glorifier le monde. Il nous avait promis la résurrection, mais avant la résurrection, il a bien fallu qu'il passe par la mort, ce qui n'était pas une partie du plaisir. Et avant d'arriver à la mort sur la croix avec la souffrance correspondante, il a fallu qu'il passe par l'angoisse de Gethsémani. Réfléchissez aux deux pôles de l'évangile. Je passe l'évangile de l'enfance pour voir la triple tentation pendant qu'il jeûnait pendant 40 jours au désert et l'autre triple tentation qui est dans le jardin de Gethsémani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou s'il se peut que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. D'entourer comme ça les récits de l'évangile par ces deux séries de tentations montre que c'est toute la vie du Christ qui était une lutte contre la tentation. Ce que nous disons dans notre Père ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. Pas les épreuves d'une grippe, d'un Covid, de la belle maman qui meurt ou de d'autres drames plus sérieux que ceux que, avec humour, je vous cite là tout de suite. Le Christ a retricoté notre nature en supportant ces drames de la vie humaine avec l'éclairage de sa nature divine. Lui, supportant les tentations et en ne succombant pas aux tentations, nous redonne la liberté d'agir de même. C'est-à-dire que notre vie n'est pas simplement une imitation du Christ, ce qui serait d'ordre moral, encore, qui est cet aspect-là. Si le Christ a supporté la souffrance, s'il a accepté en tout point la volonté de son Père, c'est pour que nous apprenions nous aussi à accepter la volonté de Dieu et la volonté des autres, de nos frères. Mais c'est surtout pour... Et s'il a fait ça, ce n'est pas tellement pour qu'on l'imite, c'est pour restaurer en nous ce dynamisme qui nous permet de le refaire. C'est là où, par son baptême et tout ce qui fait sa vie, il nous a redonné la liberté. Je vais arrêter là, parce que sans quoi on y est encore pendant 22 heures. Mais pensez à ça, c'est fondamental. La religion chrétienne, comprise autrement, c'est du vent. Le christianisme de devoir, si je puis dire, moral, le christianisme moral, c'est un retour aux conceptions de l'Ancien Testament. On accomplit quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on accomplisse pour Dieu ? Tout ce qu'on peut donner à Dieu, c'est lui qui nous le donne. En revanche, les sacrements, les lectures, les saintes écritures, les vertus qu'on est appelé à désirer, à défaut de les développer, c'est simplement une orientation, un choix libre de retrouver notre soumission amoureuse à la volonté de Dieu. Si on communie, si on se confesse, si on jeûne, si on prie, si on pardonne, si on le fait simplement par morale, par vie morale, ça ne veut rien dire. Dans l'Ancien Testament aussi, il y avait des lois comme ça de pardon, moins subtiles, moins profondes que dans le pardon que le Christ nous demande. Mais il y avait déjà ces lois-là. Mais avec le Christ, c'est autre chose. Notre vie chrétienne, c'est une participation à sa vie. Lui seul est libre parce qu'il est Dieu. Et en étant un avec lui, on apprend la vraie liberté. On tombe peut-être, on chute, on n'est pas encore parfait. Moralement parlant, on se plante, on regimbe, on se détourne. Mais ça, c'est notre péché, justement. C'est l'aspect, les mailles qui sont défaites. Mais il y en a un autre, le Christ, qui est avec l'Esprit Saint, qui, à l'intérieur de nous, retricote tout cela. Et notre vie, c'est d'accepter, de participer, de collaborer à cette restauration en nous de la nature que Dieu nous avait donnée et à laquelle il nous demande de participer. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen.